Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55 pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à toutes et à tous.
La dispute. Ce soir, la musique.
Ce soir, Mario Drou et Emmanuel Giuliani se font face à notre affiche L'Orfeo de Claudio Monteverdi, direction musicale Geoffroy Jourdain, mise en scène Julie Berès à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, Das Liebesverbot de Richard Wagner d'après Shakespeare, direction musicale Constantin Trinks, mise en scène Mariam Clément, c'est à l'Opéra National du Rhin. Nous parlerons également du CD Dedication de Nicolas Sangelich chez Erato Warner Classics. Vers 21h20, Émilie Chaudet nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Laboratoire de l'art qui a lieu jusqu'au 4 septembre au Musée des Arts et Métiers à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec le chorégraphe et directeur du Musée de la Danse, Boris Charmatz, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute avec une production de l'Académie de l'Opéra National de Paris, avec les chanteurs de l'Académie de l'Opéra National de Paris, l'orchestre et chœur des Cris de Paris, l'Académie qui a bien sûr pour ambition de promouvoir une nouvelle génération d'artistes, qu'ils soient musiciens, chanteurs, chefs de chant, chorégraphes, metteurs en scène, qui a pour vocation aussi de faire découvrir aux élèves, aux étudiants, aux familles, la production artistique, lyrique et chorégraphique de l'Opéra de Paris. Première nouvelle production qu'on peut découvrir donc dans l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, c'est l'Orfeo de Monteverdi, en 1607 pour le carnaval de Mantoue. Le prince commande à Monteverdi une fable en musique. Il va donc utiliser la légende d'Orphée pour composer un opéra en 5 actes, organisé symétriquement autour du 3e acte. Évidemment, les stances d'Orphée illustrent le pouvoir de la musique. Un prologue consacré à l'intervention de la musica, une muse, et un dénouement, bon, absent de cette production, on en reparlera peut-être, qui s'achève autour de la figure d'Apollon. Geoffroy Jourdain sur la direction musicale, Julie Berès, la mise en scène. La première, c'était hier au soir, donc nous n'avons pas d'extrait de cette production, ce qui ne va pas nous empêcher d'en parler, peut-être quand même déjà parler de cette académie, qui est quand même une initiative plutôt réjouissante, naturelle, logique, Emmanuel Giuliani.
Oui, c'est toujours très bien quand une grande maison d'opéra s'attache comme ça à développer, à trouver, à développer et à encourager des jeunes talents, à les programmer dans des spectacles spécifiques comme celui dont on va parler, à les faire intervenir aussi dans des petits rôles ou des rôles plus importants dans les productions, les productions adultes, si on peut dire, de la maison. Donc ça, bien sûr, d'autant plus que cette académie, depuis une saison, je crois, s'est enrichie aussi d'une académie d'orchestre. Voilà, donc c'est vraiment tout un volet pédagogique qui existe depuis longtemps et qui se développe à l'Opéra de Paris. Et ça, on ne peut que s'en féliciter et se réjouir de voir régulièrement des productions plus ou moins légères, avec mise en scène ou sans mise en scène, autour de la mélodie, de la musique sacrée ou de l'opéra, comme on l'a vu hier.
Alors, de découvrir aussi, bien sûr, de nouvelles voix à cette occasion. Et par parenthèse, Patricia Petitbon était l'invitée de la dispute la semaine dernière, parce qu'elle était marraine de Tout seul opéra. Vous avez été à sa masterclass samedi dernier. Vous avez pu entendre des voix de cette académie.
Oui. Alors, malheureusement, je n'ai pas les noms sous les yeux, mais effectivement, on a entendu 3 jeunes chanteurs de l'académie, dont deux sopranos absolument merveilleuses, notamment. Et voilà, c'est une master que Patricia Petitbon a cet art, je dirais, à la fois de rentrer dans le son, dans le texte et dans le personnage. personnage, et elle est très tactile, ce qui fait que ces musiciens parfois étaient un tout petit peu décontenancés par le fait qu'elle leur mettait la main sur la poitrine ou qu'elle leur caressait la joue. Et je me suis dit peut-être qu'à l'Académie précisément, il n'y avait pas assez de choses tactiles. Je ne sais pas, il faudrait peut-être en parler. Mais c'était absolument merveilleux. Effectivement, on a pour comprendre ce qu'est le chant au plus profond du corps, c'était voilà, elle a vraiment cet art de faire passer les choses. Mais bon, en l'occurrence, voilà, tous à l'opéra, ça a été un très bon moment. Je crois que hier soir, on n'était pas sur les mêmes sur les mêmes bases.
Dans le débat, parce que il faut dire déjà que c'est peut-être aussi un choix un peu ambitieux, audacieux que cet Orfeo de Monteverdi, qui est quand même une difficulté extrême, que ce soit pour l'orchestre, que ce soit pour les voix, Marion Drou.
Oui, je trouve que c'est pour ma part, hein, pour autant que je puisse donner mon avis, parce que je ne suis pas directrice de... Mais effectivement, je crois que le choix des œuvres est quand même important. Parfois, il y a eu des ouvrages qui étaient quand même déjà assez costauds, comme on dit, mais je trouve que Orfeo, c'est vraiment très, très particulier. En plus, il y a eu quand même ces 20 dernières années un tel travail sur cette musique, sur la façon de prosodier, sur la façon de respirer, sur la façon d'ornementer, que est-ce qu'on peut demander à des chanteurs encore non aguerris, surtout sur le plan stylistique, de se lancer là-dedans? Je me pose la question. Et bon, j'ai un petit peu ma réponse au vu de ce que nous avons entendu hier soir, qui était, voilà, on a entendu quelques jolies voix, on a entendu des personnes qui ont une voix à peu près placée, mais on a entendu une sorte de débâcle stylistique assez étrange, notamment bon, le rôle d'Orphée qui a quand même pourtant...
Alors c'est le grand rôle.
C'est le grand rôle.
Parce que c'est vrai que l'intérêt de cet ouvrage pour l'Académie, c'est qu'il y a beaucoup de rôles.
Oui, donc, voilà. Mais bon, cela dit, Orphée, c'est un rôle écrasant. Il est là du début à la fin. Il a tous les grands airs, les grands récitatifs. Et c'est vrai qu'il faut quand même une voix qui sache. Alors, en l'occurrence, ce jeune ténor que je ne connaissais pas d'ailleurs, Tomáš Kumiega, a une fort jolie voix de ténor. Et d'ailleurs, une voix assez lourde, assez puissante. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a l'impression que tout était passé au pilon, quoi. Donc, ne pas être ému dans l'air de l'inventation, dans le lamento d'Orphée, je trouve que c'est quand même assez rare. Et là, en l'occurrence, Mais je crois aussi que les optiques dramaturgiques, pour moi, le fait d'en faire par exemple une scène de colère, ce qui était à peu près le cas, je trouve que c'est un non-sens. Un lamento, c'est un lamento, c'est pas une scène de colère, même s'il peut y avoir de la révolte dans la lamentation, bien entendu, puisque c'est la justice, c'est la plainte. Mais je trouve que là, en faire un savate en guerre, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller aux enfers, je vais aller rechercher, et puis voilà. Je trouvais ça vraiment un peu premier degré, quoi. C'est pour moi, quelque part, c'est une option qui n'est pas viable.
Alors, c'est vrai que pour parler de cette production, il faut un peu croiser tout, parce qu'il y avait évidemment le travail de Julie Berès qui signe la mise en scène. Il y a aussi quand même, et on y viendra, l'écrit de Paris qui est donc assuré la musique, qui assure la musique dans cette production, qui me semble aussi assez problématique, mais premier regard d'Emmanuel Giuliani, parce qu'il faut embrasser tout ensemble, c'est une production scénique. Donc voilà.
D'autant plus que comme on le voit à l'amphithéâtre de la Bastille, qui est une petite salle tout à fait adaptée à ce répertoire, mais on est près de tout. Mm-hmm. Les yeux sont près de ce que l'on voit, les oreilles sont près de ce que l'on entend. D'autant plus qu'il y a une petite spatialisation avec de temps en temps les personnages qui arrivent derrière le public, qui peuvent circuler sur les côtés. Donc vraiment, on est ou on devrait être enrobé et visuellement et auditivement. Et en effet, moi je suis tout à fait de l'avis de Marie-Aude, ce n'est pas le cas parce que les problèmes musicaux vocaux, instrumentaux, quand les instruments sont à découvert, moins quand ils sont en outil, où là, il y a une patte musicale, moi, que j'ai trouvé assez séduisante à certains moments, plus difficile quand les instruments sont exposés, mais là aussi, parce qu'on entend tout, évidemment, on est si près, vraiment, chaque petite scorie apparaît de manière un peu superlative, donc tout ça est bien alourdi et n'est pas sauvé, au contraire, est écrasé, pilonné, je reprends votre terme, par une mise en scène qui, si elle était spectacle de fin d'année d'une l'école de musique de je ne sais pas où, on dirait bon, c'est pas mal, mais là non, ça va pas du tout, c'est pas beau du tout, c'est ou très agité ou de manière incompréhensible statique. On se dit mais mettez donc un peu d'agitation du début dans le statisme du milieu et réciproquement. Les costumes sont vraiment affreux, notamment les hommes, on dirait des dératiseurs de l'espace, enfin je sais pas, c'est très étrange. Les femmes, il y a à nouveau eu un stock de nuisettes à écouler, comme souvent oui. à l'opéra. Et, oui. La nuisette n'est pas saillante.
Avec une tête verte dans le bas, voilà, qui avait dégueulé partout,
oui,
si je peux me permettre.
Des perruques de filles fleurs des années 30. Enfin, non, mais vraiment, là, il y a une grosse taupinière pour figurer les enfers. Enfin, c'est moche, moche, moche. Et en plus, et ça gênant aussi dans cette petite salle, c'est bruyant. Donc on entend des grincements, on entend un peu les techniciens qui se chuchotent, ils ont le mérite de le chuchoter, mais quand même ça passe des ordres ou contre-ordres parce que ça tremblicote à certains moments, une espèce de praticable et on sent qu'il n'est pas très stable, enfin des choses qui vraiment... abîme et ne rendent pas service. Et c'est, alors, c'était la première représentation. On va peut-être mettre de l'huile dans les rouages à tout point de vue. Mais ça, c'est quand même fâcheux.
C'est d'autant plus fâcheux que, effectivement, tous les interprètes de cette académie semblaient très contraints, quand même. Alors, peut-être qu'ils ont vécu ça formidablement bien. Nous, on parle de notre ressenti de spectateur. On les a sentis très contraints par toutes ces indications. Alors, quand même très précises, y compris d'être statique, ça nécessite quand même aussi des efforts, hein. Le statisme est un effort pour le corps, mais il y a aussi des moments de, j'ose à peine appeler ça danse, parce que de procession et de vieille non-danse il y a quelques années qui est quand même assez pénible à regarder, sans doute pénible à faire pour eux. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments, vous avez parlé du Lamento, où on se demande pourquoi on voit ce qu'on voit alors que ce qu'on enfin on connaît le...
Pourquoi on fait chante de dos alors que quand même la meilleure position, je suis désolée de le dire pour un chanteur, c'est d'être face à son public, alors que déjà il y a une spatialisation qui n'est pas toujours très cohérente. Hein. Ouais. Déjà pour chanter ensemble quand on est éparpillé comme ça aux quatre coins d'une salle, c'est pas évident, avec un orchestre qui est complètement à jardin et avec le chef qui dirige de dos quasiment. Donc,
oui, bon, dans les écrans, mais il y a quand même des décalages gênants par moment.
Je trouve que déjà, les conditions, j'allais dire, de la salle sont telles qu'au contraire, il aurait fallu essayer de faire une sorte de cocon, de faire en sorte que les gens soient ensemble. Alors là, effectivement, on a un peu l'impression d'ailleurs que cette mise en scène, c'est une sorte de contre-pied du bon sens. Et ensuite, avec des cases qu'il faut cocher, une sorte de cahier des charges. Alors un petit peu de gens à poil quand même, parce que sinon, si on n'a pas un corps nu, on n'est pas moderne.
Un peu de costumes futuristes.
Voilà, un peu de X-Men mélangé avec Puvis de Chavannes. Enfin, c'était assez curieux quand même.
Les inévitables bougies électriques qu'on voit dans tous les magasins de décoration. Moi, je n'en peux plus de ces bougies dans les magasins de déco. Mais alors là, on en a combien? Bien 150. Peut-être non, peut-être plus de 30. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'elles pullulaient.
Non, enfin. C'est vraiment dommage, quoi. On a envie de dire c'est dommage. Et c'est vrai que musicalement, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un problème sur de tempo. Hein.
Très, très lent.
C'est quand même, effectivement, c'est une fable. C'est pas non plus, on n'est pas dans le drame absolu. Hein. C'est une fable. Et il y a des moments où il faut que ça danse, vraiment, que ça soit joyeux, que ça soit sur la pointe des pieds, que les rebonds soient vraiment tournés vers le haut. Et là, on a constamment des choses qui retombent. Et là, c'est Geoffroy Jourdain, je dois dire, est quand même responsable de nous faire un son qui est souvent très joli, assez ductile, assez sensuel, mais où la dynamique, franchement, ça semble être parfois le cadet de ses soucis. Donc, je trouve justement, ça manque aussi de contraste. Donc, on est vraiment dans quelque chose de un gros magma. On a l'impression d'un gros magma. Et quand on sort de là, on ne sait pas quoi détacher de cette impression un petit peu d'englument global.
Oui, puisqu'il est vraiment effectivement dommage, et qu'on se disait hier soir à la sortie, c'est de pas avoir eu d'émotion devant un ouvrage pareil. C'est quand même bon, voilà, le signe est très 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 évident. Notre camarade Anna Sigalevitch était avec nous, elle a ressenti la même chose. Bon, je pense que beaucoup de gens que j'ai entendu parler regrettaient quand même. Enfin, il y avait presque des moments des petits rires un peu gênés parce que tellement il y avait des choses qui semblaient à côté de la plaque. Mais c'est vrai que voilà, on y va parce qu'on a envie que ce soit bien. Il faut bien qu'on entende ça. On est là après pour dire ce que nous avons vu, entendu, ressenti. On est tout à fait ravis que l'Opéra de Paris fasse ce travail-là. Maintenant, on parle du résultat ici.
Non, j'ai envie de dire que les choses qui seraient tout à fait véniales, c'est d'avoir à redire sur le chant, sur les voix. Ça fait partie du jeu, puisque on est encore censément avec des artistes qui sont
en apprentissage,
exactement.
Sont des académiciens.
Donc c'est tout à fait. Après, je trouve que le choix des metteurs en scène, là, pour le coup, si on fait vraiment une mise en scène, et pas une mise en espace ou une mise en
non,
situation,
là, y a des
je
moyens,
sais,
enfin,
il y a des moyens. C'est... D'ailleurs, il y a des décors,
il y a des costumes. Exactement. Bon, les lumières étaient pas...
Il y a beaucoup de costumes, d'ailleurs, ils sont tous moches, mais il y en a beaucoup. Et franchement, on se dit que voilà, c'est dommage de pas avoir quelqu'un qui ait su vraiment prendre les choses... ben voilà, qui ait su
apporter un regard apporter pertinent un regard, sur cette œuvre,
pas forcément neuf d'ailleurs, mais au moins un regard pertinent. Impertinent, puis qui suscite, qui laisse l'émotion s'épanouir et qui la feutre pas, comme c'est le cas.
Pour avoir une note un peu moins négative, les voix des Cris de Paris sont quand même tout à fait, ça on les connaît, on sait le très beau travail qu'ils font avec Geoffroy Jourdain, et ça vraiment, ils apportent cette tonalité poétique, ces fusions vocales, notamment chez les femmes. Et quand on a comme ça quelques voix de femmes ensemble, c'est rare que ce soit aussi gracieux, et ça, vraiment, ça l'est. Et puis, quelques beaux timbres. La Messagère a vraiment un très beau timbre. Donc là, voilà, on peut... il faut que je retrouve son nom. Comment s'appelle-t-elle? Emmanuela Pascou. Et vraiment, c'est un beau timbre charnu. Eurydice et l'Espérance aussi, c'était...
Leur poissonnier.
Voilà, donc, évidemment, c'est des artistes dont on se dit, on a envie de les réentendre. Et ils sont un peu victimes, non pas d'une réussite collective, mais d'un échec collectif, dont chaque individu n'est pas responsable, mais la somme, en effet, est décevante.
Bon, c'est Orfeo de Claudio Monteverdi, direction musicale Geoffroy Jourdain, mise en scène Julie Berès, se donne à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille jusqu'au 21 mai.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Das Liebesverbot, la défense d'aimer, donc opéra de Wagner, monté à l'Opéra National du Rhin. Avant cela, nous retrouverons l'invité de la dispute, le chorégraphe et directeur du musée de la danse, Boris Charmatz. Et nous évoquerons aussi le CD Dedication de Nicolas Sengeli chez Erato Warner Classics. Il n'est pas entièrement dédié, lui, à la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute, Antoine Guillot, au moins pendant le Festival de Cannes. Mais nous avons la très grande chance d'avoir avec nous Émilie Chaudet pour pallier ce manquement. Bonsoir, chère Émilie.
Bonsoir, Arnaud, et bonsoir à tous. Roberto Alagna s'apprête à fêter ses 30 ans de carrière au Corégie d'Orange. Ce sera le 10 août prochain, annonce le Parisien. Vous me direz qu'il n'y a guère que ses fans pour s'en réjouir, fans dont vous faites d'ailleurs peut-être partie. Mais en ces temps de défection, de départ, de renouvellement, une nouvelle comme celle-ci se remarque. Rien que le mois dernier, le journal La Croix nous apprenait à 10 jours d'intervalle le départ de Leonard Slatkin et de James Levine. Alors d'abord, Leonard Slatkin, le chef new-yorkais qui quittera donc l'Orchestre National de Lyon en août prochain, lui aussi à l'âge de 71 ans, pour diriger les Phalanges Lyonnaises, et puis donc James Levine qui quittera la direction musicale du Metropolitan Opera de New York. Ce sera à la fin de cette saison, à cause notamment de ses soucis de santé. James Levine a 72 ans et en 40 ans de carrière au sein de l'institution, il a, selon le journal, remis à l'honneur des œuvres oubliées ou négligées. Le quotidien britannique The Guardian rend ainsi hommage à celui qui a introduit des opéras de Berg et de Stravinsky au répertoire de l'opéra new-yorkais, une petite révolution en 40 ans de carrière, de quoi laisser un grand vide une fois parti. Mais ceux qui arrivent ne sont pas ceux que l'on pourrait croire. Thierry Ilerito s'attarde dans le Figaro sur la figure de Camille Berthollet, nommée dans les révélations 2016 des Victoires de la musique classique. La jeune violoniste s'était faite d'abord une place à la télévision sur France 2 en remportant la première saison de Prodige, un télécrochet qui révèle les jeunes talents du classique en musique, en chant et en danse. Or, c'est souvent à l'issue de ces victoires un peu inhabituelles que les difficultés commencent pour les jeunes recrues, surtout quand elles sont estampillées, vues à la télé. Gilles de Sangle, le directeur de l'association des Victoires, explique dans ce même article, je le cite, « On sent clairement des réticences du milieu classique aux jeunes artistes qui présentent un parcours atypique. C'est le cas de Camille, on la juge souvent sans l'avoir entendue. » Juste derrière la jeune prodige de 17 ans, au classement des ventes de musique classique en France, elle est deuxième, on trouve le jeune claveciniste Jean Rondeau, tête de proue d'une nouvelle génération de musiciens, comme le présente le journaliste du Figaro dans un autre de ses articles. Il y a quelques années, personne n'aurait parié sur le succès du clavecin au sein d'une major. Selon les mots d'Hervé Defranoux, patron de Sony Classical France, c'est pour lui, cité dans ce même article, la résultante de personnalités artistiques fortes qui ont su défendre leur singularité, mais aussi celle de leur instrument auprès du grand public. Un peu à l'image de cette doyenne de la musique jazz dont le New York Times a publié le portrait cette semaine, Carla Bley, qui s'apprête à fêter ses 80 ans et qui a nettoyé pour la première fois en 30 ans sa pièce de travail lorsqu'elle y reçoit l'auteur de l'article, Nate Shannon, qui compose encore et encore et qui se souvient qu'à l'époque de ses premières tentatives de composition, elle allait voir un psychiatre qui lui suggérait une thérapie aux électrochocs pour qu'elle se débarrasse de ce sentiment d'être une compositrice. La musique, là encore, a été plus forte et aussi la personnalité d'une artiste qui, plus jeune, dit-elle dans l'article, cherchait ce qu'il y avait de plus mauvais, de plus faux et de plus interdit. Elle aurait sans doute aimé Carla Bley, dans ses plus jeunes années, rencontrer le neurologue britannique Mandel Kellen, qui mène depuis plusieurs années des études sur l'influence de la musique sur des cerveaux humains sous psychotropes. C'est le magazine Vice qui nous livre la synthèse d'une étude publiée dans la revue European Neuropsychopharmacology. Cette étude montre que le flux d'informations qui circule entre la partie du cerveau liée à la mémoire et le cortex visuel est réduit quand le sujet a pris de la drogue, et en l'occurrence du LSD, mais quand ce même sujet écoute en plus de la musique, c'est l'inverse qui se produirait. Ce neurobiologiste a donc étudié en ce sens la playlist parfaite qu'il ne peut pas révéler entièrement étant en cours d'étude, mais la journaliste de Vice, Victoria Turk, s'est tout de même procuré quelques références, parmi lesquelles Brian Eno, on pouvait s'en douter, mais aussi Greg Haynes ou le compositeur polonais Henry Gorecki. Le scientifique conclut avec cette question: je me suis souvent demandé si la chanson fonctionnait sur le patient parce qu'elle fonctionnait sur moi, ou si elle transmettait une sorte de message universel intrinsèque à la musique. Une recherche qui fait écho aux interrogations de Peaches, on change là complètement de registre musical. La chanteuse canadienne donne une interview à Libération à l'occasion de l'European Lab et des Nuits Sonores à Lyon. Peaches parle des missions de cette scène queer dont elle est une icône, une scène très morcelée, dit-elle, et où chaque partie tente d'imposer ses règles à l'autre, confie-t-elle à la journaliste Maïté Darnaud. Elle ajoute qu'il faudrait trouver un langage commun grâce auquel tout le monde pourrait être audible. Mais derrière ces bons vœux, Peaches ne prend pas l'exemple d'un musicien ou d'un chanteur, mais du premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors que ce langage commun, ça pourrait être justement le but ultime de tout musicien, et il faut croire que ce but est possible. Le journal El País, dans un article consacré à Kendrick Lamar, cite les propos tenus par Pharrell Williams, qui dit du rappeur américain de la côte ouest: il est le Bob Dylan de notre temps, il nous donne à voir un monde et ses perspectives que la majorité des gens ne connaît pas. Ou alors moins récent, mais sans doute plus significatif, le pianiste Ahmed Ahmed, qui s'est rendu audible au nom de tout un peuple, le musicien dont le clavier avait été brûlé par le groupe État islamique et qui vit dans les camps de réfugiés palestiniens de Yarmouk, a reçu donc il y a déjà quelques semaines le premier prix Beethoven pour le droit humain, la paix, l'intégration et le combat contre la pauvreté. C'est déjà un début.
Merci, Amy Chaudet. Vous avez quelque chose
je
à dire,
Marie?
Ben voyons, c'est-à-dire.
Non. J'ai peut-être deux choses à dire quand ouais. même. C'est, on peut pas mettre sur le même plan le départ de James Levine et le départ de Leonard Slatkin. Slatkin quitte des fonctions après un mandat. Levine s'en va parce que vraiment il peut plus diriger. Il est, voilà, c'est.
C'était juste une mise en relation dans la temporalité. C'est juste, mais voilà.
Et c'est juste pour dire aussi que cette petite Camille que moi j'ai rencontrée précédemment et que je suis allée écouter à Gaveau parce que c'était bien de l'écouter aussi. C'est aussi une étudiante. C'est, elle vient d'être prise à la chapelle Reine-Élisabeth de Belgique en violoncelle, et on la voit surtout violoniste, mais elle joue les deux instruments.
D'accord.
Et c'est quelqu'un de, voilà, elle véhicule autre chose, elle n'est pas là pour concurrencer notre élite musicale passée par les conservatoires et autres concours internationaux, mais elle est là pour, parce qu'on la reconnaît dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, grâce à elle, sont venus à la musique classique, et que c'est quelqu'un qui a une grâce, et voilà, il faut reconnaître la grâce, donc on ne peut pas non plus, encore une fois, mettre... Alors qu'elle se retrouve aux Victoires de la musique, peut-être, effectivement, c'était la chose qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu. De toute façon, elle ne l'a pas eu, donc je dirais que d'une certaine façon, la justice immanente est faite.
La justice immanente, on l'attend après elle. Emmanuel Giuliani, vous aviez l'air intéressé dès qu'on parlait de LSD. C'est comme
absolument,
ça que vous faites vos critiques musicales.
Mais je ne vais pas faire de commentaires plus avant. Là, cette antenne respectable. Non, je revenais en effet sur James Levine parce qu'il se trouve, ça c'est les chances de notre métier, que j'en parlais il y a peu de temps avec Karine Deshaies, la mezzo-soprano française, qui a eu la chance parmi tant d'artistes de chanter avec lui.
Qui sera bientôt l'invité de la dispute, Karine
Deshaies. Et qui disait vraiment qu'elle, à chaque fois, et notamment la première, elle avait été frappée, elle ne savait pas à quoi ça tenait. Mais avec lui, c'était totalement évident. Voilà, James Levine regarde les chanteurs du début à la fin de l'ouvrage, leur sourit, voilà, et elle dit, de toute façon, on ne peut que chanter au mieux de ce que on peut faire à un moment donné, et voilà.
D'ailleurs, donc il a gardé le poste de l'espèce d'académie de jeunes chanteurs qu'il a créé.
Ah ouais. D'où sortent des merveilles. Des merveilles. Alors, là, les voix qui sortent, bien sûr.
Donc ça, il va continuer.
Bon, salut et chapeau à James Levine, en effet. Bon, il serait peut-être temps qu'on écoute de la musique dans cette émission musicale, on
mais
va
c'est
le
vrai,
faire.
Non, on n'entend rien entendu.
Oui, mais bon, ben, voilà.
Voilà, je pense que ça va...
Ça va changer un petit peu avec Nicolas Sengelich, nouveau CD qui vient d'être gravé chez Erato Warner Classics. Le pianiste américain a conçu un programme consacré à Liszt, Schumann et Chopin. Donc, avant d'en parler, écoutons donc un peu de Chopin. Dedication, c'est même la dernière plage, je crois, de ce nouveau disque. Marie Audreau, vous commencez ?
Oui, alors je me suis fait ma petite dramaturgie, parce que comme effectivement la sonate de Liszt est dédiée à Schumann, qui lui-même a dédié les Chris Kreisleriana à Chopin, qui lui-même a dédié les études opus 10, numéro 10 et 12 à Liszt, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de l'un dans l'autre, etc. Et j'ai quand même entendu des choses, et je me suis parce que Engelich, c'est quand même quelqu'un de tellement extraordinaire que je me suis dit, même s'il l'a pas fait exprès, je suis sûre qu'il a réussi à... Effectivement, je trouvais qu'il y a, dans cette sonate de, enfin, là, on vient pas d'écouter la sonate de Liszt, mais moi, la sonate de Liszt, je l'ai trouvée vraiment formidable. Et il y a des accents schumanniens dans la sonate de Liszt. On peut retrouver, dans Schumann, des choses, bah, évidemment, chopinesques, mais ça, on savait déjà un petit peu. Et là, je trouve, dans ce qu'on vient d'entendre, par contre, c'est comme si Chopin disait, d'accord, tu es le grand virtuose du piano, mais regarde, moi, avec mon étude, du début à la fin, il y a pas, je suis dans un continuum de notes, et j'en fais autant que toi. Et je trouve qu'il a quelque chose de formidable, cet Engelich. La virtuosité qui est si souvent synonyme, j'allais dire, de quelque chose de de finalement pas si agréable que ça, hein, parce qu'on est dans la virtu, on est dans le fait de que le courage s'exprime. Il en fait quelque chose d'absolument musical, d'absolument évident, et en même temps ça gronde, ça part, ça, et il est dans quelque chose de c'est magique, quoi. C'est, et moi je pour cette étude qui peut être vraiment la scie avec ce thème qu'on n'entend plus que ça par dans certaines interprétations, là on ne lâche pas la ligne médiane et la ligne de basse, on ne les lâche pas. Et je trouve ça vraiment formidable. Enfin, c'est un disque. Moi, j'ai pris un plaisir incroyable dans la fugue de la sonate de Liszt, où tout d'un coup, on a l'impression que tout se combat, alors que normalement, une fugue, bon, quand même, vous avez un contre-sujet qui est censé aller avec le sujet. Mais il en fait des ennemis par moment. Il y a une espèce de chromatisme qui vient tout grever, menacer tout le temps sur le sujet. Je trouve ça, mais vraiment extraordinaire.
Bon, on reviendra prendre un peu d'enthousiasme de votre côté au besoin.
Là, je suis vraiment complètement
Emmanuel Giuliani.
Et oui, enfin, Mario a tout dit. Il est là Orphée, en fait. Hein. Voilà, c'est le piano d'Orphée. C'est vraiment ça, avec tous ces aspects. On l'a vu dans cette étude, c'est terriblement chantant. Il prend ça un train d'enfer, mais un train d'enfer absolument maîtrisé. Donc,
Orphée, Orphée. Orphée. Orphée.
Oui, non, j'arrête là de filer la métaphore, ça va devenir un peu trop. Mais ça chante, en effet, ça se plaint, ça se bat.
Ça explose, ça pétille, ça gronde, ça
respire, et puis ça reprend. Et ce qui est très intéressant avec ce disque, outre le jeu, il y a un petit schéma, d'ailleurs, je sais plus où il y a, sur le coffret.
Il y a les portraits.
Voilà,
les
portraits avec les petites flèches, enfin, comme dans les, qui montrent qui dédie quoi à qui. Ce qui est très intéressant avec ce disque, et c'est l'art du disque, c'est que c'est un peu le programme inversé d'un concert. C'est-à-dire, on s'imagine qu'en concert, on aurait pu commencer avec les études, après on avait Kreisleriana, entr'acte et la sonate. Et là, il nous fait l'inverse. Il a mis un miroir au milieu de Kreisleriana, et puis voilà, et on
alors,
a l'inverse.
Alors ça dit, il donnera peut-être pas tout le programme, une grande partie au TCE, au Théâtre des Champs-Élysées, le 23 mai. Donc on verra bien dans quel ordre il va le jouer.
Et c'est vrai que commencer avec cette sonate de Liszt, dont on se dit que c'est un des aboutissements du piano romantique, et après, voilà, la voie est ouverte pour le Liszt d'après, et puis pour Ravel, pour Debussy, etc. Commencer avec cette sonate à laquelle, justement, il donne aussi ses accents romantiques dont Mario a parlé, est extrêmement intéressant parce qu'il nous installe dans une écoute un peu inhabituelle qui ouvre la porte avec cette fugue faramineuse, en effet, de la fin de la sonate, à des Kreisleriana très impressionnantes qui sont un peu sur la réserve, mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Et à partir de la 11e, moi, j'ai vraiment senti un point de bascule. Et à partir de la 11e, alors là, s'ouvre un monde qui est, alors c'est facile de dire Schumann, un monde de folie, mais il y a ça.
Oui, de fantastique,
peuplé d'ombre, de fantômes, de réalité, enfin ces deux personnages qui accompagnent toujours l'œuvre de Schumann, l'ombre et la lumière qui se disputent. Et vraiment, on a comme ça des points de bascule, et c'est un disque qui donne à l'auditeur une liberté d'écoute formidable, parce que, bon, Mario nous dit, elle a fait sa petite dramaturgie, moi j'ai vécu cette espèce de bascule dans Kreisleriana, le côté très solaire et très opératique, mais très véhément aussi des études de Chopin. Et je pense qu'à chaque fois qu'on remettra cette galette dans notre machine, on écoutera différemment et il nous réaccompagnera pour un nouveau récit. Donc c'est assez prodigieux.
Marie-Drou. Et puis la façon dont il gère ses énergies musicales, parce qu'en fait il en fait trois énergies qui se regardent, qui se répondent, et curieusement, et il unifie tout quand même. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est que à la fois les personnalités évidemment musicales de chaque compositeur sont respectées, évidemment, il a pas changé une note, mais en même temps, c'est une sorte de grande vision totale, je dis pas totalitaire,
totale.
Vraiment globale de la musique de cette époque, avec ces personnes qui sont peu ou prou rencontrées, connues, aimées ou pas aimées, et admirées, ou parfois. Voilà, et je trouve, enfin voilà, il y a tout un monde là qui nous restitue. C'est vraiment un merveilleux pianiste, on veut dire ce qu'on veut, mais Angelich, quand même, actuellement, c'est. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Faut écouter, faut aller l'écouter en concert aussi, parce qu'il est merveilleux en concert aussi. Il est impressionnant, il bouge presque pas, et voilà, c'est une espèce de démiurgie qui vous tombe dessus.
Autant en récital qu'en concerto.
C'est vrai que c'est un très grand artiste.
Bon.
Et c'est un beau disque, vraiment très très beau disque.
Je ne peux que confirmer que ce Dedication est absolument à se procurer, à s'acheter, à se faire offrir. Il est sorti chez Erato Warner Classics, et donc le 20 23 mai au Théâtre des Champs-Élysées, s'il reste quelques places, avec une bonne part, on ne sait pas dans quel ordre, mais du même programme que celui que, qui figure dans ce disque. Dans quelques minutes, retour à l'opéra avec L'amour interdit. Je garde un peu d'allemand pour tout à l'heure. De Wagner, c'est à l'Opéra National du Rhin. Mais avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, danseur, chorégraphe, directeur du musée de la danse, Boris Charmatz, dont on peut retrouver l'actualité sur franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Boris Charmatz, je m'aperçois que dans les jours précédents, on n'a pas évoqué la musique, ce qui pourrait paraître étonnant, parce que j'imagine qu'elle voilà, elle fait aussi partie de votre vie, la musique, non ?
C'est vrai. Bon, ce qui est vrai, c'est que en danse, on est souvent non pas soumis à la musique, mais voilà, c'est danse et musique, c'est une espèce de couple obligé, voilà, on se tient forcément la main. Et du coup, moi, dans mes pièces, on fait beaucoup de travail où les danseurs font eux-mêmes le son. Alors, c'est peut-être de la musique sans, déclassée ou amateur ou même chaotique ou même sans intérêt, je dirais, ou basse. Mais en même temps, on crée nous-mêmes notre son et ça dit plus de choses que si on travaillait avec le meilleur musicien du monde. Ça n'empêche pas après de, voilà, j'adore improviser avec Médéric Collignon ou parfois j'ai improvisé avec Saul Williams ou des gens comme ça. Bon, c'est extraordinaire et j'adore la musique. Hein. Mais souvent, j'aborde deux biais, quoi. Dans ma prochaine pièce, Danse de nuit, il y a des textes, mais on travaille aussi sur des lyriques de rap, en fait. J'ai un bouquin qui s'appelle, c'est une anthologie du rap. Alors, c'est traduit en français, mais c'est une anthologie du rap américain, donc c'est que des textes anglais. C'est pas traduit en français, par contre, c'est en anglais que je lis. Et on considère le rap dans son texte. Et c'est de la musique, évidemment. Hein, c'est... Et j'aime bien ces passerelles-là, et j'aime beaucoup ça, par exemple. Je suis pas du tout un connaisseur de rap, mais par exemple, il y a des textes de Aesop Rock, c'est un rappeur pas très connu, mais il écrit de manière vraiment très particulière. Bon, je prends un dico pour essayer de suivre ce qu'il dit, ça part dans tous les sens, mais j'aime beaucoup ça. Il y a pas longtemps, j'ai vu un concert de Mansfield Tia, je sais pas si vous voyez, c'est Rebecca Warrior, qui est la chanteuse de Sexy Sushi, qui a ce deuxième groupe. J'adore la musique qu'elle fait, qu'elle produit, mais j'adore aussi la performance, en fait, la personne sur scène, un mélange de liberté totale, de transgressivité aussi, de rudesse et en même temps de, je dirais, de beauté hyper simple, quoi. Ça me touche, mais c'est de la musique, mais pour moi c'est de la performance, pour moi c'est du mouvement. Et d'ailleurs, elle intervient dans Fou de danse, elle anime un club, un Asphalt Club, pour terminer. C'est un midi-minuit, une sorte de marathon de danse qu'on fait le dimanche, où il y a 18 projets avec des danseurs de l'Opéra de Paris, Anne-Thérèse Atkersmaker, mais c'est très participatif au sens où on peut danser. Les gens qui passent, même s'ils ne voulaient pas, ils se retrouvent à danser un Soul Train, à danser plein de choses de midi à minuit. Et c'est Rebecca Warrior, elle termine, elle fait une sorte de club avec des gens déguisés. Ça, et j'aime vraiment, vraiment ça. Donc c'est de la musique, c'est aussi de la danse, c'est de la performance. Et je dirais que c'est pas que de la musique. C'est peut-être pas enfermé dans une boîte qui serait la musique. C'est presque, ça m'intéresse autant dans mon boulot que d'un travail purement chorégraphique.
Mais justement, dans votre travail, Boris Charmatz, il n'y a pas des musiques, alors qu'elles soient des chansons, qu'elles soient des pièces classiques ou ethniques ou que sais-je, qui vous donnent envie quand même d'écrire pour ces musiques ou avec ces musiques plus exactement ? Ça marche jamais comme ça pour
si,
vous ?
Si, quand même, hein, puisque dans mes pièces passées, j'ai beaucoup travaillé avec des pièces de Helmut Lachenmann, grand compositeur allemand. Dans la pièce Manger, une de mes dernières pièces, les danseurs chantent. Et puis, ils chantent une sorte de Ligeti, ils chantent du Morton Feldman, et puis ils chantent du Sexy Sushi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment haut, bas, fragile, vieux, contemporain. Il y a même une pièce de Josquin Desprez. Alors qu'on saccage un petit peu, au sens où un vrai... voilà, si je parlais à un chef de chœur, Je rougirais ou je me cacherais sous la table. J'aime bien le fait, c'est un espace mental en fait. C'est des ritournelles, des chansons qui nous restent. On chante la Folia, on chante plein. Et puis c'est un espace qui est à la fois contemporain et très ancien. J'aime bien ces frottements là. C'est pas pour dire je veux que toutes les musiques soient présentes dans mon travail. Par exemple, pour qu'il y ait de la musique ancienne, de la musique contemporaine, du rock et du rap. C'est pas ça, mais c'est plutôt des choses qui passent dans la tête, qui y restent pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et puis du coup, sur scène ou là, dans ma prochaine pièce, peut-être qu'on utilise les textes de Eminem ou peut-être les textes même de Mabenz, cette espèce de truc que tout le monde connaît ou tout le monde a dansé là-dessus. J'aime bien les textes ou la musique qui nous hante, en fait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est ce qui sort, c'est ce qui ressort. Et dans le spectacle Enfant, il y avait la voix de Michael Jackson qui était a cappella, c'est un enregistrement pirate, chantant Billie Jean. Et ça s'est retrouvé dans la pièce, mais si j'avais dit, je vais travailler sur Michael Jackson, non. Je dirais même presque jamais, quoi. Mais ça s'est retrouvé dans le travail et tant mieux, tant pis.
Est-ce que vous feriez, Boris Charmatz, un Sacre du Printemps ou un Après-midi d'un faune?
Je crois que j'adore danser. En tant que danseur, c'est le plaisir. Je suis danseur et du coup, je danse sur le boléro dans une chorégraphie de l'Île du Boc avec Emmanuel Huyn. Mais moi, chorégraphe, est-ce que j'aurais chorégraphié le boléro? Est-ce que je chorégraphierais le Sac du Printemps? Je crois que j'aurais du mal. Peut-être parce que il y a déjà eu 150 versions, que c'est formidable, mais je me dis bon, et c'est extraordinaire, le Sac du Printemps, à danser, à voir, à regarder. Mais de même que j'aurais eu du mal à danser sur Bach, et sans Interzat Kersmaker, je le ferais pas. Et pourtant, la partita 2, la chaconne, notamment, en musique live avec Amandine Bayard, sur laquelle je danse avec Interzat, y a rien de mieux. Enfin, c'est un plaisir. Mais en tant que chorégraphe, j'aurais du mal. Je crois que je préfère murmurer voilà, des lyriques de rap un peu incompréhensibles. Ça me suffit, ça me porte plus. Parce que je crois que j'aime bien que la danse soit peut-être un peu plus autonome, qu'on ne se confronte pas uniquement au chef-d'œuvre ou à une musique qui est déjà écrite aussi, qui est du coup déjà là. Puis alors la danse, elle se cale. On décide d'être un peu en dehors des clous ou dans les clous de la musique. Je crois que je préfère un rapport plus sauvage, quoi.
Nous poursuivons cette dispute consacrée à la musique ce jeudi soir avec Das Liebesverbot, la défense d'aimer, sous-titré La Novice de Palerme, là je vous l'épargne en allemand, opéra en deux actes composé par Richard Wagner d'après la pièce de Shakespeare Mesure pour mesure, un opéra de jeunesse composé en 1834, dirigé pour la première fois par Wagner lui-même en 1836 à Magdebourg, alors que théâtre que le compositeur dirige à l'époque, Wagner est encore à cette époque, et on l'entend dans cet ouvrage influencé par l'opéra italien, il n'a pas évidemment encore tracé sa voix personnelle. L'Opéra National du Rhin propose donc une nouvelle production à voir à Strasbourg et à Mulhouse, me semble-t-il, ou Colmar.
Mulhouse, la filature.
Non, la Cine.
Non, en fin de compte, c'est la filature.
Oui, alors, ils se sont trompés sur le programme.
Oui, ils se sont trompés pour le programme, mais ils nous ont prévenus. Marie-Aude Bézou, vous n'avez peut-être pas à voir.
Non, en tout cas. J'ai pas été prise en filature.
À la filature, donc ce sera. Je vous donnerai la date dans un instant. Constantin Trinks dirige l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, mise en scène signée Mariam Clément, qui est une habituée de l'ONR, un ouvrage qui dure normalement 5 heures. C'est une version de 2h50, ai-je lu, entre actes compris, qui nous est proposé. Voici un extrait qui nous provient de l'acte 1.
Thank you.
Il faut bien interrompre parce que ça dure encore un certain temps. Mais c'est bien du Wagner, Das Liebesverbot, qu'on a entendu, mais un Wagner jeune. Alors, c'est vrai que d'un moment à un autre, même au cours de ce court extrait, on a entendu des sonorités assez différentes, des influences assez différentes. On s'est cru tantôt ici, tantôt là.
Emmanuel tantôt en Giuliani. France, tantôt en Italie, tantôt bien en Allemagne, tantôt bien à cette époque et tantôt bien dans ce qui va suivre aussi.
Ouais, un petit peu.
Et voilà, un petit peu. Ce n'est pas qu'une curiosité musicologique où on pourrait se dire « Ah tiens, là, ça me fait déjà penser à... » ou « Maître chanteur, là, ça me fait déjà penser à Tannhauser », même s'il y a des moments explicites. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir révélé au public français, puisque c'est scéniquement, je crois que c'est la première fois qu'on le donne en France.
Ah ouais.
Voilà, et c'est pas fréquemment donné, même dans les pays germaniques, parce que c'est une œuvre qui déjà, même si évidemment c'est pas Tristan, c'est pas Parsifal, mais c'est une œuvre qui déjà a des éléments très wagnériens, à savoir un très fort sens dramatique. Une œuvre hyper bavarde, comme ça l'est toujours chez Wagner, mais plus il parle et plus on est content. Et une œuvre qui a une orchestration parfois même un peu trop copieuse, mais d'une richesse et d'une texture, d'une volubilité, d'une intelligence qui est déjà vraiment tout à fait du futur maître de Bayreuth. Donc rien que pour cela, elle soutient l'intérêt grâce aussi à la réussite du spectacle. Donc vraiment, moi je trouve que c'était une très très bonne idée, et même si on s'en est un peu rendu compte avec cet extrait vocalement, c'est extrêmement exigeant, notamment le rôle de Isabella où il faut une voix d'une endurance, il faut une Senta qui chante beaucoup plus longtemps, donc c'est vraiment terrible, donc c'est pas facile de trouver une chanteuse qui puisse y arriver. Donc même si le plateau vocal était loin d'être parfait, comme on a vraiment assisté à là de la très belle ouvrage collective, contrairement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est globalement une réussite, enfin il me semble.
Marie Audreau.
Oui, c'est vrai que on est toujours un peu, voilà, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, on se dit bon, on va passer un moment à répertorier, je dirais, un petit peu les choses, à faire un petit peu un état des lieux, parce que c'est une œuvre de 22 ans. Wagner a 22 ans quand il écrit ça, et il a écrit juste les faits avant, et ensuite il n'y aura rien dit, et puis après commencera la vraie série. D'ailleurs, ces trois opéras dont je vais citer le nom, on n'a toujours pas le droit de citer à Bayreuth. D'ailleurs, ils ont été joués en 2013 pour le bicentenaire de la naissance de Wagner, mais en tout cas, ils ne sont jamais montés. Donc, et en France, je crois que non seulement c'est la première scénique, mais je suis même pas sûre que ce n'était pas la première tout court
même en tout cas, version de concert.
Voilà, il me semble, hein, mais bon, c'est à vérifier. Mm-hmm. Et effectivement, au fur et à mesure, on est pris par le rythme, je dirais. Il y a quelque chose d'implacable, hein, comme toujours chez Wagner. Quand il vous prend quelque part, il vous prend au collet, il vous lâche pas. Et quand on a l'orchestre qu'on avait sous la direction de Constantin Trink, qui était d'ailleurs celui qui l'a fait à Bayreuth en 2013, donc il connaît très très bien l'œuvre, il doit être un des rares d'ailleurs à la posséder à ce point-là, et il a vraiment réussi à faire quelque chose de très cohérent, de très enlevé, de très coloré, d'implacable, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire quelque chose qui vous prend et qui vous lâche plus, avec des chœurs, les chœurs de l'Opéra de Strasbourg, dont on sait que ce sont des parmi les meilleurs chœurs qu'on peut écouter sur des scènes en région. Et je trouve qu'effectivement, avec ces deux piliers, l'orchestre, le chœur, et bon, on parlera de mise en scène tout à l'heure, mais on a vraiment quelque chose de suffisamment solide pour que, effectivement, on n'a pas le meilleur plateau qui se puisse rêver. Mais en même temps, ils sont très très impliqués scéniquement, ils sont vraiment dans leur jeu, ils sont dans la musique, et on a passé finalement un bon moment et découvert quelque chose. Ma foi, je le reverrai bien avec plaisir s'il fallait pas retourner à Strasbourg. C'était à Paris, je le reverrais bien une seconde fois.
Bon, ça va peut-être donner des idées à des gens. On pourrait retourner à Mulhouse à la Filature, mais ça, je le redirai tout à l'heure, si vous voulez, pour aller le voir. Côté mise en scène, Mariam Clément, je disais, elle a souvent mise en scène pour l'Opéra National du Rhin. Une nouvelle fois, votre sentiment, Emmanuel Giuliani?
Alors, c'est une mise en scène à décor unique, avec les avantages et les inconvénients du genre. Même si ce décor a une flexibilité, c'est une grande salle de restaurant, bar, voilà.
Bavarois,
avec des tables qui tantôt occupent vraiment la scène et tantôt sont un peu remisées sur les côtés pour donner plus de respiration à l'espace. Un espace qui est bien conçu, qui a un premier plan, des côtés, un fond, et donc ça permet
sas,
vraiment...
Des sas voilà, aussi, qui apparaissent,
ça circule,
et disparaissent, oui. Donc ça permet une circulation qui est fluide, avec une très bonne gestion du jeu d'acteurs et du jeu collectif des chœurs. Non seulement ils chantent très bien avec beaucoup de précision, une partie extrêmement difficile. Vraiment, il faut des petites interventions. Si on a raté son entrée, de toute façon, on ne peut pas se rattraper. Et ils font ça très très bien, tenu au tac, certainement extrêmement bien préparé par Sandrine Abello, et vraiment tenu. On voyait Constantine Trinks qui les regardait. Et vraiment, c'est une mécanique d'horlogerie très bien faite. Mais le jeu, c'est scénique, va dans ce sens-là. Et donc, cette salle de restaurant, cabaret, etc., évidemment, accuse le côté farcesque, comique et festif de l'œuvre, mais qui est très important. Peut-être est un petit peu moins efficace et poétiquement, d'une dimension un peu poétique pour les moments plus nocturnes, plus amoureux, plus tendres, avec un ou deux personnages seulement et pas toute cette foule. Mais quand même, ça marche bien. Et comme vous le disiez, Mario, du début à la fin, on est pris, comme grâce au chef d'orchestre et grâce à cette mise en scène très cohérente, dans un même flux, un même flot, et donc on se laisse embarquer avec beaucoup de plaisir.
Je trouve qu'il y a des jolis clins d'œil aussi. Par exemple, l'histoire empêche un abruti, garant des bonnes mœurs, vient interdire toute notion de plaisir dans à Palerme, donc pas de carnaval, pas d'amour hors mariage, etc. Donc il y en a même un qui est condamné à mort pour avoir entre guillemets engrossé sa future, comme on dit dans les romans. Et donc voilà. C'est tout comment dépatouiller cette histoire-là.
Ah, c'est d'après Shakespeare, je rappelle.
Voilà, c'est d'après Shakespeare, d'après mesure pour mesure. Mais bon, c'est bien aussi. Parce que, Mariam Clément joue aussi avec l'œuvre. Parce que, voilà, donc, par exemple, le carnaval a lieu, on voit arriver tout d'un coup tous les personnages du ring qui débarquent en costume. Donc, c'est assez rigolo, ces petits clins d'œil. Puis, il y a des choses un tout petit peu plus fines, je dirais, encore. Quand les deux, à un moment, donc, la Isabella, qui est une nonne, hein, théoriquement, qui va intercéder auprès du tyran pour obtenir la grâce de son frère.
La novice de Palerme, du sous-titre.
Voilà. La novice de Palerme. On apprend que le tyran avait une ex-femme qu'il a laissé tomber. Donc, à un moment, elle lui donne un rendez-vous galant. Enfin, Isabella lui donne un rendez-vous galant pour finalement obtenir la grâce de son frère. Et en fait, elle va lui mettre dans les pattes son ex-femme. Et on se retrouve dans la situation de Suzanne et de la comtesse dans les noces. Et ça, c'est complètement explicite et c'est très, très bien joué, effectivement. Mariam Clément a apporté encore, dans un opéra où finalement, il y a déjà beaucoup d'éléments extérieur, je dirais, au langage strictement wagnérien, elle a apporté aussi dans la mise en scène des éléments encore plus extérieurs.
Parce qu'elle les habille en 18e
voilà,
à ce moment-là.
Elle les habille en 18e et donc on est effectivement...
On est dans le quatrième acte
des
noces. Oui.
Et donc, il y a des clins d'œil comme ça, il y a des choses. Bon, il y a aussi la milice en culotte de peau. Mais en même temps, les costumes sont pleins de fantaisie parce que voilà, on a la culotte de peau, mais on a par exemple les chaussettes qui ne vont pas jusqu'au pied. Donc, on a comme ça des petites choses. On sent qu'il y a des petites piques partout.
Mais ça ne ridiculise jamais.
Et ça ne ridiculise jamais les personnages, mais en même temps, ça crée cette distance et ce côté, justement, comique qui est quand même inhérent à la trame de l'œuvre. Voilà, donc on a passé un bon moment.
Ce rôle de la femme bafouée du tyran Friedrich qui réussira à reconquérir malgré lui son mari, c'est un très très beau rôle. Elle intervient assez peu, mais elle a un duo qui d'une beauté au premier acte, au début de la scène 2, avec Isabella, mais vraiment un duo de femmes. Une pure merveille, et qui a été accompagnée par Constantine Trinks, qui leur a mis sous les voix, si je puis dire, un petit tapis d'orchestre, mais merveilleux. Et puis elle a un très beau timbre, cette chanteuse, qui, j'espère, j'ai pas trop écorché son nom. Elle s'appelle Agnieszka Slawinska, et c'est une très belle voix, très fruitée, très charnue. Et rien que si on n'a pas le temps d'écouter l'intégralité, on va piquer les deux interventions de Mariana, et déjà là, on a un petit bonheur d'écoute.
Bon, heureux les habitants de Strasbourg et de Mulhouse. Hein, cet opéra national du Rhin qu'on aime bien parce qu'il fait un beau travail. Ils sont quelques-uns, heureusement, dans les régions françaises, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg. Quelques autres aussi, Nantes, Angers, Dijon. Il y a quand même quelques belles scènes dans notre pays. On est très heureux de pouvoir en rendre compte régulièrement. Das Liebesverbot de Wagner, dirigé par Constantin Trings, mise en scène Mariam Clément. Donc à l'Opéra National du Rhin jusqu'au 22 mai à Strasbourg, puis les 3 et 5 juin à la Filature à Mulhouse.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et pour conclure l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un retour sur le jeu d'hier soir d'abord. Émilie Chaudet, qu'a-t-on gagné hier?
Oui, alors hier, on vous faisait gagner des invitations pour le spectacle Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers de Stefano Massini, mise en scène d'Arnaud Meunier. C'est pour la représentation de ce samedi au Théâtre du Rond-Point à Paris. La question était, en quelle année les trois frères Lehman ont-ils débarqué en Amérique? Il fallait donc répondre en 1844.
Absolument, je le confirme. Enfin, je me souviens en tout cas de ce que j'ai vu dans le spectacle. Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Laboratoire de l'Art, jusqu'au 4 septembre au Musée des Arts et Métiers à Paris. À quelle question faut-il répondre, Émilie?
Quel artiste s'est emparé du pendule de Foucault pour cette exposition?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Emmanuel Giuliani, Marie Honoroux, Émilie Chaudet, d'avoir pris part avec moi. Les informations à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission, un site sur lequel vous pouvez nous écrire. Dispute possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore, Virginie Le Duo. Prise de son assurée ce soir par Alain Joubert, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Daniel Martin et Philippe Chevillé. À notre sommaire, Purity de Jonathan Franzen, Scène de Pierre Glendinning, mais aussi La Marque et le Vide de Paul Murray, et enfin L'Amour a le goût de fraise, tout un programme de Rosamund Adden. Nous retrouverons bien sûr Émilie Chaudet pour une nouvelle revue de presse culturelle. Les choix de Boris Charmat, invité de la dispute, il y aura un nouveau cadeau à gagner grâce au jeu de la dispute. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler, et dans quelques instants le journal de la rédaction.